Bonjour à toutes et à tous sur Radio Grenouille, 88.8 FM sur Marseille et ses environs. Ce soir, une émission spéciale sur mai 68, préparée par le groupe Offensive Libertaire et Sociale de Marseille. Avant de démarrer l'émission, je vais vous faire une petite présentation de notre groupe. Offensive Libertaire et Sociale édite depuis 5 ans une revue trimestrielle qui s'appelle Offensive. A chaque fois, la revue est centrée autour d'un dossier différent. Pour information, les derniers numéros traitaient de la prostitution, le suivant abordait le thème du commerce, et actuellement vient de paraître un numéro commun avec le mensuel Courant Alternatif autour de mai 68. Le prochain numéro, qui paraîtra en septembre, sera consacré à la militarisation. Pour revenir à l'émission d'aujourd'hui, je tenais à souligner que mai 68 n'est pas uniquement une révolte d'étudiants aux cheveux longs, mais plutôt la plus grande grève générale depuis la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le 13 mai 68 débutait la grève. Une semaine plus tard, la France comptait environ 7 millions de grévistes. Pour étayer ces propos, nous allons diffuser ce soir une interview de Xavier Vignat, historien, pour la sortie de son ouvrage « L'insubordination ouvrière dans les années 68, essai d'histoire politique des usines », paru aux presses universitaires de Rennes. Cette émission, qui a déjà été diffusée sur les ondes de Radio Libertaire à Paris, est donc une version redécoupée. Par avance, nous nous excusons auprès des auditeurs pour les transitions un peu rapides qu'il peut y avoir dans le montage.
Nous recevons Xavier Vignat, nous allons parler des années 68, des années des 30 glorieuses où on parlait surtout d'accès à la machine à laver, à la voiture qui devait soi-disant satisfaire les millions de salariés, la France allait bien, le chômage n'existait pas paraît-il. Et puis pourtant en 68 il y a eu des étudiants, des ouvriers qui sont soulevés, un soulèvement qui justement était loin d'être éphémère et qui a eu des impacts jusque dans les années 70. Et pourtant quand on parle de 68 on a souvent l'image plutôt d'un étudiant aux cheveux longs, un étudiant qui jette des pavés à des CRS qui ressemblent à papa. Juste un mai 68 qui s'arrête à l'été avec un discours de Gaulle fin mai et des élections qui enterrent définitivement les espoirs de révolution. Et donc le soulèvement en fait est rarement présenté comme la plus grande grève de l'histoire par exemple ou comme le retour d'un prolétariat qu'on avait enterré, qui avait disparu. Et rarement on interroge les conséquences de mai 68 pour ceux qui l'espace d'un instant s'étaient arrêtés de travailler. C'est pour ça que ce soir on reçoit Xavier Vignat, auteur de l'ouvrage « L'insubordination ouvrière dans les années 68 ». Qui est paru aux éditions Les Presses Universitaires de Rennes. Donc Xavier Vignat, bonsoir.
Bonsoir.
Donc peut-être que pour commencer, je pensais qu'on pouvait s'arrêter peut-être sur les événements de mai 68, parce que c'est des événements peu connus en fait, aussi paradoxalement, parce que mai 68, tout le monde connaît mai 68, et finalement, quand on demande qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, c'est très peu connu. Alors vous êtes attaché à la question ouvrière, mm-hmm. à la question de l'industrie, des salariés, même si bien évidemment il y a des transversales en permanence qui doivent s'effectuer pour le replacer dans un contexte, mais peut-être que vous pouvez nous dire quand commence en fait la mobilisation ouvrière de ce qu'on va appeler mai 68 ou de 68.
Alors déjà cette simple question est une question compliquée tout simplement parce que quand on parle de mai 68 on réduit cette phase de contestation essentiellement à une trilogie étudiant-ouvrier et qui serait résolue par le discours de Gaulle le 30 mai et ensuite la campagne pour les élections législatives et les élections. C'est pour ça que moi j'aime bien dire mai-juin 68 dans le livre. J'insiste là-dessus parce qu'il y a le mois de juin. La difficulté, tout l'intérêt de ce moment justement, c'est qu'on a en quelque manière deux mobilisations parallèles. Une mobilisation étudiante, c'est la plus connue, mais une mobilisation qui est déjà relativement ancienne, enfin qui avec quelques épisodes marquants à Nanterre, avec quelques figures qui sont devenues ensuite célèbres. Mais du côté ouvrier, on a également des mobilisations, précisément sur en particulier la question du chômage, oui. qui effectivement est tout à fait limitée en 68, quand on compare à la situation actuelle, bien évidemment. Mais cette question du chômage est une question qui inquiète. C'est parce qu'un certain nombre de vieilles industries sont frappées par la crise et donc il y a des suppressions d'emplois. Donc c'est pas un plein emploi. C'est pas un plein emploi. Dans certaines régions, depuis la fin des années 50, il y a des difficultés. Les vieilles régions industrielles traditionnelles. Et le symbole de cette inquiétude sur le chômage, c'est la création de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, en 67. Et donc, Dans ce cadre, on a des mobilisations régionales qui ne sont pas tout à fait négligeables, dans le Nord par exemple, hein, au début de l'année et au début du printemps 68. Le moment où la jonction s'opère, alors ça dépend des endroits, mais un des lieux justement qui est assez intéressant, c'est l'ouest du pays. Il mobilise le 8 mai dans une grande journée interprovisionnelle autour du mot « l'ouest veut vivre ». Bon. Et le 8 mai, justement, on a des étudiants, notamment Nantais, mais pas seulement, des paysans, des ouvriers, et leurs organisations. Ce qui fait qu'on a une confluence en 68 dans l'ouest du pays, antérieure à mai proprement dit. Mai, si on entend mai par
le 11 mai, voilà,
la nuit des barricades, du 11, etc. Etc. Voilà. Et évidemment, la mobilisation étudiante parisienne d'abord, puis qui ensuite s'étend assez rapidement en province, parce que là encore, faut quitter Paris un peu. Il faut regarder ce qui se passe à Toulouse, à Marseille, et donc à ce moment-là, on a des mobilisations dès la fin avril qui existent. Mais bon, évidemment, c'est à Paris que la cristallisation s'opère à la suite de la nuit des barricades du 10 au 11, et la journée de grève générale appelée par les organisations syndicales, le 13, journée de 24 heures, qui fait qu'on est... Enfin, moi, c'est ce que j'appelle un coup d'envoi. C'est le coup d'envoi d'une mobilisation ouvrière, mais plus largement salariée, et qui va durer bien au-delà du mois de mai, proprement dit. Les dernières usines qui reprennent le travail, elles reprennent le travail début juillet.
Oui, donc c'est pour ça qu'on parle de mai-juin. Il y a des exemples aussi, des exemples forts qu'on garde en tête aussi quand on parle de cette mobilisation. Est-ce qu'on peut parler de Sud-Aviation comme un déclencheur ?
Alors, Sud-Aviation, c'est important. Donc, Sud-Aviation, c'est une usine, comme son nom l'indique, d'aéronautique, enfin une entreprise d'aéronautique, dont une des usines se trouvait dans la banlieue nantaise. Et les salariés, notamment nantais de Sud-Aviation, sont mobilisés depuis le printemps sur des questions de salaire classiques. Bon. Sauf que, à Sud-Aviation Nantes, il y a une configuration syndicale un peu particulière, chez les ouvriers qu'on appelle à l'époque les horaires, puisqu'on a la CGT, la CFDT et une section horaire force ouvrière animée par un militant trotskiste de l'OCI, Roqueton, et qui est un des promoteurs d'une grève un peu particulière parce que le 14 mai, donc au lendemain de la journée de grève générale, à Sud-Aviation, il continue la grève, et non seulement il continue la grève, mais il séquestre le patron du Vauchel, enfin le directeur de l'usine, et 5 de ses collaborateurs. Or, il y a des journalistes qui sont là. Et donc, ce qui se passe à Sud-Aviation est tout de suite connu en France. Et donc, dès le lendemain, le 15, on a, en quelque sorte, une espèce d'extension à partir du modèle nantais de Sud-Aviation. Ce qui explique qu'au début du mouvement de mai, enfin le 15, 16, 17, on a toute une série de séquestrations de patrons. On fait comme à Sud-Aviation.
D'accord.
Ce qui fait que ça inquiète un peu. Et Ségui, Georges Ségui, donc, voilà, qui est à l'époque le secrétaire de la CGT, dans un débat en direct sur Europe 1 le samedi 18 mai, qui débat avec Eugène Descamps de la CFDT en direct, du Vauchel téléphone en direct à l'émission, se plaignant d'être retenu par des hordes gauchistes épouvantables. Et Ségui condamne en direct ces méthodes. Et à partir de ce moment-là, c'est pas qu'il n'y a plus de séquestrations, mais il y en a bien moins.
Pour reprendre la chronologie, donc Sud-Aviation, début des mobilisations 8 mai, 11 mai, 13 mai, c'est ça ?
13 mai, journée de grève générale.
13 mai, oui, voilà. Et donc Sud-Aviation qui continue le 14 mai. Voilà. Et après, le 20-30 mai, on peut considérer que c'est quand même l'apogée du mouvement,
oui.
Ou en juin, ça...
Oui, oui. La fin mai constitue très probablement... Je dis très probablement parce que les services de l'État sont à ce point désorganisés qu'on n'a pas de point de vue national constitué. Bon, on essaye, c'est à l'historien d'essayer de reconstituer tout ça. Mais bon, oui, très probablement, fin mai, au moment où De Gaulle... pas en Allemagne, et qu'on ne sait pas ce qui devient, etc. Bon, là, on est à l'apogée du mouvement. Apogée du mouvement, ça veut dire 7 millions, sans doute, encore, hein, de grévistes, ce qui fait de ce mouvement de grève le plus vaste mouvement que la France a jamais connu. Mmh. Ouais.
Et justement, alors, quel est l'impact du discours de De Gaulle sur la mobilisation ? On peut se souvenir récemment, alors, c'est toujours difficile parce qu'on va avoir l'impression de faire des parallèles, mais des comparaisons. Pendant le mouvement du CPE, le discours de Chirac avait eu plutôt tendance, pour se souvenir, à revigorer les troupes. Le discours de De Gaulle, quel est l'impact qu'il a sur les mobilisations ouvrières ?
Il en a un, incontestablement. D'abord parce que c'est un discours extrêmement habile. De Gaulle est tout sauf un imbécile. Et quand même, ce discours est un discours qui réinvente une situation de guerre froide, qui fait fictivement de la France un pays menacé par un danger communiste. Et dans ce cadre-là, il instaure fictivement une opposition entre l'UDR, les gaullistes et les communistes. Et il fait de l'enjeu électoral un enjeu entre la droite et le Parti communiste. Bon. Et c'est pas ça, 68. Mais précisément parce que cette opération-là échoue, cette opération réussit parce que les partis politiques et les syndicats vont aux élections.
Oui, c'est ça, parce qu'il propose des élections.
Il dissout l'Assemblée nationale, voilà. il engage à des élections législatives. Et l'ensemble des partis politiques et des organisations syndicales vont aux élections, acceptent les élections, dans une culture républicaine classique. Et donc, la mobilisation populaire, elle est en partie désarçonnée par cela. Et donc, quand on lit les rapports de préfets, autant ils étaient assez abattus, voire inquiets, les jours précédents, autant là, ils se ressaisissent. Et ils sont parfois assez belliqueux. Et dans les réactions ouvrières, il y a quand même quelque chose de... L'initiative a changé de camp. C'est ça, l'initiative a changé de camp. De Gaulle reprend la main. Et donc, on a un début de fin de grève, mais qui est assez timide au départ, et puis ensuite qui va s'accélérer. Mais cette fin de grève, elle est accélérée parce que la CGT, en particulier, pousse à la fin de la grève.
Et notamment avec les accords de Grenelle aussi qui interviennent.
Alors, il n'y a pas d'accord à Grenelle, c'est ça. Là-dessus, c'est ça qui est compliqué. Il y a toute une série de choses. Les négociations de Grenelle se déroulent entre le 25 et le 27 mai. C'est-à-dire le samedi 25 mai après-midi jusqu'au lundi 27 mai, 7h30. Donc c'est une négociation tripartite, État, patronat, syndicat. Au terme de la négociation, il n'y a aucune signature. Il n'y a pas d'accord au sens précis du terme. Pompidou, parce qu'il y a eu quand même une nuit de négociation non-stop, donc il est un peu fatigué. Mais enfin, bon, il présente le résultat de la négociation aux journalistes. Puis il est suivi par Segui. Segui précise bien, parce que Segui, donc le secrétaire général de la CGT, que c'est au travailleur à décider. Mais, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, il faut considérer que les dirigeants de la CGT sont favorables à la reprise du travail le 27 mai au matin. Et ce qui se passe, c'est Guy, donc, il a terminé à 7h30 et il se rend ensuite à Billancourt. Il se rend à l'usine Renault de Billancourt, sur l'île Séguin, où le meeting de grève a commencé depuis 5h, parce qu'on commence les meetings de grève au moment où théoriquement on reprend le travail. Et la grève a déjà été revotée. Ça, c'est très important. La grève a déjà été revotée. Et se sont déjà succédé à la tribune plusieurs orateurs, notamment pour la CGT, Aimé Albert, qui est le dirigeant local, dont on a le discours, qui est un discours extrêmement militant, très très dur, faut continuer camarade, etc. Ensuite, Benoît Frachon, président de la CGT, vieux militant déjà là en 36, qui calme le jeu. Le discours de Frachon est très très intéressant, parce qu'il dit aux métallos de Billancourt, vous êtes le fer de lance des prolétariats, mais il faut penser aux autres. Et il calme le jeu. Il essaye de préparer le discours de Segui qui veut leur dire que voilà, il faut peut-être quand même penser. Mais quand Segui présente les acquis de Grenelle, les acquis sont hués. On a entendu ça. Et donc Segui précise, attention camarade, on n'a rien signé. Et il a raison. Sur ce point, il a raison. Il n'a rien signé. Sauf qu'il espérait quand même que les ouvriers apprennent. Et ce démenti, là, ce démenti de Billancourt, la forteresse ouvrière, l'usine phare décidant du pays, fait tache d'huile encore. Et donc, le 27 mai, 27-28, partout, on refuse les accords de Grenelle pratiquement. Ou ce qu'on présente comme les accords de Grenelle. Donc la CGT est dans une situation un peu difficile parce qu'elle a poussé à cette négociation. Elle en a accepté le quart, elle en a accepté assez largement les résultats, quoi qu'elle en dise. Et les ouvriers en grève qui sont censés la suivre ne la suivent pas sur ce point. Donc dans les jours suivants, quand la CGT, à partir du 30 mai, va aux élections, c'est aussi un moyen pour elle de résoudre une situation, de résoudre cette difficulté que la situation pour elle est insaisissable. Finalement, les élections, c'est le moyen de définitivement canaliser un mouvement qui lui échappe.
Mais est-ce que ce que vous expliquez aussi dans l'ouvrage, aujourd'hui on est à 40 ans, 40 ans de mai 68, mais en 68 ils sont qu'à 30 ans de 1936, donc il y a des ouvriers qui ont connu 36.
En effet.
Il y a, vous parlez de Benoît Frachon, de la CGT qui était aussi un leader ou un militant CGT en 36. Et donc l'idée est de rejouer le coup du Front Populaire pour la CGT, c'est ça grosso modo?
C'est-à-dire que la stratégie de la CGT et de déboucher sur une victoire électorale de la gauche. Bon. Et de la gauche, sous-entendu, du Parti communiste. Dans ce cadre-là, donc, parce que depuis 1962-1963, hein, c'est la stratégie du Parti communiste. Bon. Et dans ce cadre-là, le souci constant de la CGT est que ce mouvement est un prolongement politique, bon, avec une accession de la gauche au pouvoir. Le problème, c'est que ce n'est pas possible. Puisqu'il y a eu des élections législatives en 67 et que le gaullisme est là. Et bon. Alors, la réactivation de la mémoire du Front Populaire, elle fonctionne parce que, comme vous le disiez, les ouvriers les plus anciens ont vécu 36. Et donc, y compris dans la manière dont on fait grève, dont on occupe les usines, dont on occupe les carreaux de mine, etc., il y a une mémoire de 36 qui fonctionne. Bon. Et le PC et la CGT réutilise aussi cette mémoire tentative parce que c'est le signe, c'est le paradigme du mouvement de grève victorieux. Mais le problème, c'est que en 36, et la CGT en a bien conscience, et le Parti communiste aussi, en 36, il y avait une victoire électorale de la gauche, il y avait eu les élections législatives juste avant.
Oui, c'est ça, ça se passe dans l'autre sens.
Et là, ça se passe pas. Et donc cette stratégie-là, elle est un peu étonnante. C'est-à-dire qu'elle est un peu étonnante, c'est-à-dire qu'elle est à contre-temps. Mais elle a ceci d'efficace qu'elle incite les salariés à raisonner dans l'idée que le mouvement va, d'une manière ou d'une autre, aboutir à des négociations interprofessionnelles.
D'accord.
Donc Grenelle 68, c'est aussi, pour la CGT, c'est aussi une manière de réactiver les négociations Matignon de 36 avec cette idée que finalement, à la fin, on débouche sur des accords et des acquis dont tout le monde se souvient. Donc en 68, c'est pas ça du tout.
Oui, justement, est-ce que cette stratégie-là ne les sépare pas de la jeunesse? On a parlé de génération, alors
ouais.
C'est toujours délicat de parler de génération, parce que Sarkozy aussi, c'est la génération 68, pas forcément du même côté.
Non.
Mais est-ce que les jeunes ouvriers, parce que vous parlez des ouvriers, Xavier Vina, dans votre ouvrage, se retrouvent pas un petit peu dans ces stratégies politiciennes un peu à l'écart, alors qu'eux ont peut-être plus envie d'aller plus loin dans les occupations
Alors, d'abord, les jeunes ouvriers, ils sont pas beaucoup concernés par ces stratégies, parce que d'abord, ils n'ont pas le droit de vote. Le droit de vote, c'est encore jusqu'à 21 ans à ce moment-là. Mais surtout parce que c'est pas leur problème. Cette jeunesse ouvrière, elle voit des usines occupées, elle voit des chefs, les chefs Fayon, sur la défensive, elle veut, on est dans une société encore assez conservatrice. La société des années 60 en France n'est pas une société, contrairement à ce que raconte le nabo là que vous citiez, n'est pas une société jouissive de la liberté, etc. C'est une société très conservatrice. Et donc, la grève, etc., les occupations, c'est aussi un moyen d'échapper à ce conservatisme social, y compris dans le monde ouvrier. Et donc, effectivement, la jeunesse ouvrière, c'est une des actrices principales de ce mouvement. Mais c'est pas la seule. Je crois qu'il faut faire attention à ça, y compris dans les groupes les groupes militants à l'extrême gauche. On a également une vieille génération qui a gardé la mémoire de 36, qui a gardé la mémoire de la résistance ou des grèves de l'après-guerre, les grèves 47-48, et qui entend bien cette fois-ci réussir. Et donc 68, bon, évidemment, il y a ce poids de la jeunesse, mais c'est C'est largement un mouvement intergénérationnel.
Ça, c'est important à préciser. Quand vous parliez de conservatisme, il y a aussi les femmes dans notre ouvrage. Vous citez aussi qui se mettent sur le devant de la scène, mais on est surpris, par exemple, d'apprendre qu'elles sont écartées quand les occupations ont lieu de nuit, etc.
Que les femmes dans les usines fassent grève ne va pas de soi. C'est quelque chose que j'ai voulu souligner. De fait, des femmes grévistes occupant en particulier la nuit, sont suspectes. Suspectes de mœurs légères, quoi, pour dire les choses. C'est-à-dire qu'elles sont suspectes, y compris dans leur camp, en quelque sorte. Et le patronat utilise ou invente des ragots pour discréditer ces grévistes. Une grève féminine, c'est une grève qui suscite un discours sur la sexualité des femmes. Moi, ça m'a beaucoup frappé, ce point-là. C'est-à-dire que, pour les grèves masculines, le problème ne se pose jamais. Mais pour les femmes, si. Pour les femmes, quand une femme occupe la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose là de suspect, voire de dangereux. Et donc en 68, effectivement, quand ça a été possible, on a préféré déconseiller aux femmes d'occuper la nuit. Mais dans certaines boîtes, évidemment, les femmes constituaient la grande majorité de la manœuvre, et donc elles ont aussi parfois occupé la nuit. Et là, il y a quelque chose... C'est là que 68 fait événement. Aussi sur ces questions-là, cette effraction à l'ordre social, où des femmes, eh ben oui, elles occupent.
Un peu comme on a occupé la cité universitaire des femmes à Nanterre un soir un petit peu. Non, mais c'est intéressant parce que ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est que vous n'êtes pas vous dressez pas un portrait de l'ouvrier comme idéal, sans reproche, parce que prolétaire, exploité, etc. Vous pointez aussi du doigt, vous faites un parallèle entre, je dirais, l'organisation des occupations et l'armée qu'ont connu à l'époque les ouvriers. Et vous parlez aussi, du racisme aussi envers les immigrés qui sont, même s'il y a aussi des transversales qui commencent à se créer, mais les immigrés sont aussi les acteurs de mai 68, des acteurs peu connus. C'est sûr que dans l'introduction de l'émission, je parlais du jeune aux cheveux longs. On n'a pas l'image de l'immigré quand on parle de mai, juin 68.
Ouais. Ben, les immigrés sont là aussi, peu visibles, mais bien présents. Plusieurs manières. D'abord, il y a des... On est dans une période de recrutement intense de la manœuvre immigrée. Bon, notamment dans les grandes usines. Et de ce fait, ils sont grévistes, avec leurs camarades. Sauf que, là encore, il faut se garder tout angélisme. Pour certains, c'est la panique. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui est en train de basculer dans une situation qu'on pense être révolutionnaire? Donc, on sait, et il y a un rapport des renseignements généraux, la direction centrale des RG qui l'explicite, qu'un certain nombre d'Espagnols et de Portugais paniqués, environ 10 000, sont rentrés au pays pendant la grève parce que la situation devenait insaisissable et donc bon. Alors 10 000 c'est beaucoup, mais en même temps à l'échelle de la population immigrée dans le pays c'est très limité, donc la majorité reste là et ils sont présents dans la grève, ils occupent, on le sait, on en a des traces tout simplement parce que quand les forces de l'ordre interviennent au mois de juin dans un certain nombre d'endroits libérer entre guillemets les usines occupées, ils interpellent aussi des ouvriers immigrés. Je pense par exemple, j'ai en tête une usine de Romainville comme ça, où sur les occupants de nuit délogés au petit matin, il y a 9 Tunisiens. Donc ils sont là dans les occupations, ils sont là aussi pour faire entendre une voix un peu particulière, la leur que les syndicats et notamment la CGT, quelles que soient les commissions qu'elle avait créées, n'entendait qu'imparfaitement. Et donc, par exemple, à Renault, à Billancourt, des immigrés ont rédigé une plateforme à l'écart des organisations syndicales. Ce qui veut dire concrètement contre la CGT, hein, parce que c'était elle qui dominait très largement. C'est l'indice, là encore, que cette participation... Elle déplace elle déplace les configurations oui, traditionnelles.
Ouais.
Et alors, troisième indice de cette participation, les expulsions. Parce que un étranger accueilli, n'est-ce pas, sur le territoire français, est censé manifester une neutralité de bon aloi. Or, comme ils sont des étrangers étudiants, il y en a un célèbre, un rouquin, bon, à qui il est arrivé quelques histoires, ont été expulsés, et puis il y a des ouvriers expulsés. Et donc, ces expulsions témoignent aussi de la participation au mouvement.
D'accord. Donc, nous sommes avec Xavier Vinal, Insubordination ouvrière dans les années 68, Essai d'histoire politique des usines. C'est un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Rennes. Nous allons faire une pause musicale. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman,
alors, nous sommes toujours sur Radio Grenouille pour l'émission d'Offensive avec l'historien Xavier Vignan.
J'ai trouvé votre ouvrage intéressant parce que je l'ai trouvé peut-être le plus élaboré sur la question des stratégies syndicales. Et puis, en tant que jeune militant, je trouvais vraiment intéressant aussi parce qu'on est confronté à ces mêmes syndicats. Même si peut-être que les proportions ont changé, peut-être que vous pouvez nous faire peut-être pour commencer un tour d'horizon un peu des forces en présence.
En 68 et dans la décennie ultérieure, il y a en gros quatre grandes confédérations, quatre confédérations importantes. La plus importante, c'est évidemment la CGT, hein, avec une implantation industrielle très très forte et qui recueille 400 000 militants environ à la suite des grèves de mai-juin. Donc, deuxième confédération, la CFDT, qui vient de se déconfessionnaliser depuis 64, qui gagne environ 100 000 militants à la suite des grèves de mai-juin, et qui incarne véritablement la confédération du mouvement, celle qui a été la plus à l'aise. Et la CFDT, c'est un peu l'auberge espagnole. Y affluent tous les militants qui veulent faire bouger les choses, qui veulent rester dans cette espèce d'esprit de 68. Alors, les deux dernières confédérations sont sensiblement plus faibles. Force ouvrière, d'une part, avec une implantation industrielle assez limitée, et puis deux visages de force ouvrière dans des sections force ouvrière dans l'industrie. D'un côté, un visage très conservateur. Parfois, FO est appelé FP, force patronale, et pas force ouvrière, comme ça. Voilà. Bon. Et puis, de temps en temps, des sections très, au contraire, très, très revendicatives, souvent animées par des militants trotskistes, soit lambertistes, soit de lutte ouvrière. Voilà. Donc ça, c'est FO. Et puis, alors, dernier petit syndicat, la CFTC. Mais bon, le reliquat. Un résidu sans grand intérêt et assez marginal. Voilà, en gros, le tableau. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, c'est très important, c'est que la crise des syndicats est assez précoce, en réalité. Ça, c'est quelque chose c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que les syndicats entrent en crise, entrent en difficulté avec la crise économique. Et précisément, quand on regarde dans le détail, eh ben, ce déclin des effectifs est antérieur, notamment à la CGT. Et donc, on est dans un moment, et ça, c'est intéressant, de conflictualité sans nécessairement que ça se répercute en termes de croissance des effectifs syndicaux. les choses sont, sont pas opposées, mais elles sont disjointes.
Il y a quand même une hausse des effectifs syndicaux.
Temporaire. Après voilà, 68. Mais voilà. Mais alors, quand on regarde la CGT de, dans le détail, enfin bon, là je m'appuie sur des travaux de spécialistes, hein, Andolfato, Dominique Labbé, Antoine Bévor, enfin il y a toute une série de gens qui travaillent là-dessus. Les effectifs de la CGT, ils reculent en 69. Bon, après ils repartent à la hausse et puis ensuite ils retombent en 73. Bon. Donc on est là dans un phénomène très très particulier. Et d'autant plus intéressant que l'Italie, à la même période, où il y a ce qu'on appelle l'automne caldo, l'automne chaud, et ensuite un cycle de conflictualité très vif, à l'inverse, là, on a une croissance très forte des effectifs. Donc le cas français est très singulier.
Et donc si on peut s'arrêter sur, si on veut s'arrêter sur les stratégies syndicales, donc la CGT, pour prendre, on va peut-être prendre la CGT et la CFDT, hein, oui, qui sont les quand même les deux cas, comme vous venez de le présenter, les plus intéressants, notamment en plus dans l'industrie. Mm-hmm. La CGT, je dirais un peu perturbée par Je ne sais pas si c'est perturbé, mais est perturbée par ces les gauchistes, les comités de grève. Et on a l'impression que dès le début du mouvement de mai 68, et quand on dit dès le début, alors c'est vrai que là c'est difficile parce que c'est aussi des formes d'action qui vont perdurer, donc sur, sur la période, hein, que de 68 à 79, hein, à peu près, c'est les barrières que vous avez mis, ils vont s'opposer donc au comité de grève et aux gauchistes de manière assez violente souvent.
C'est-à-dire que la CGT entend contrôler le mouvement ouvrier. Elle prétend l'incarner.
D'accord.
Et donc, il n'y a pas de place à l'extérieur de la CGT, voire, et encore pire, contre la CGT. Donc, une dénonciation récurrente de ce qu'elle appelle les gauchistes. C'est même plus qu'une dénonciation, c'est une obsession des gauchistes. Elle en voit partout, elle les cherche, elle les traque. Mmh. Et donc, évidemment, quand on cherche, on finit par en trouver. Donc, c'est vrai en 68 et c'est vrai pendant toute la décennie ultérieure. Il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on trouve dans les archives. C'est une circulaire de Léon Mauvais, qui est à l'époque secrétaire de la CFDT, qui demande, en août 68, aux fédérations et aux unions départementales, la liste de tous les syndicats infectés par les gauchistes et ensuite la manière dont on les a chassés. Et dans les rapports de préfectoraux, on a ensuite un certain nombre d'affaires où l'on voit des militants cégétistes disciplinés, c'est-à-dire un peu bornés et trois d'esprit, qui dénoncent carrément les militants révolutionnaires aux forces de police. Je cite dans l'ouvrage un rapport du sous-préfet de Montbéliard, comme ça, qui dit que la CGT, dans le bassin de Montbéliard, donc à Sochaux, hein, à Peugeot-Sochaux, c'est les vrais garants de l'ordre. Et que, donc c'est un rapport 70, et ils disent que l'année dernière, la CGT prenait des précautions prenait des intermédiaires pour dénoncer les militants maoïstes à la police, et qu'en 70, ils le font directement. Mmh. Et ça, on va le retrouver jusque vers 77, 78 encore, cette obsession. Reliquat de la culture stalinienne.
Et du coup, elle légitime aussi son rôle d'intermédiaire vis-à-vis de l'État.
La CGT, c'est le syndicat qui se veut un syndicat responsable et qui organise ce que j'appelle l'étatisation des luttes ouvrières. C'est-à-dire que la CGT considère que le succès d'une lutte, quelle qu'elle soit, est conditionné en dernière instance par le fait qu'il y aura à un moment ou à un autre un gouvernement de gauche. Et donc, à la fin des fins, il faut que les ouvriers votent bien.
Et justement, par rapport au comité de grève, qu'elle voit plutôt d'un mauvais œil, parce que quoi, la logique d'un comité de grève, c'est les ouvriers se réunissent, il n'y a pas de syndiqués ou de pas syndiqués, on élit des délégués, etc. Et donc, du coup, on passe outre les syndicats. Ouais. Ces comités de grève, ils existent en 36, ils existent avant 68, ou c'est quelque chose de nouveau sur la période?
Alors, on en a quelques-uns en 36, hein. On en a à nouveau en 68, mais la CGT est très méfiante vis-à-vis de ces comités, précisément parce que elle entend que des comités de grève soient subordonnés aux organisations syndicales. Mmh. Elle n'est pas hostile en tant que telle aux comités de grève, pour autant qu'ils sont contrôlés par les syndicats. La nuance, elle est là. Elle est décisive, mais elle est là.
D'accord. Alors, il y a la CFDT. Ça, c'est intéressant parce que elle lance l'idée d'autogestion sans trop savoir pourquoi en 68.
Non, c'est pas sans trop savoir pourquoi. Il y a une réflexion antérieure assez importante dans un certain nombre de fédérations. Elle s'intéresse à l'autogestion. Elle lance le mot, mais le mot n'est pas compris par les militants.
D'accord.
C'est-à-dire que le 16 mai, il y a un communiqué de la CFDT où, avec ce mot autogestion. Et quand on regarde dans le détail, le mot plaît, mais il n'y a pas de concept derrière. Et dans certains endroits, par exemple, on confond autogestion et cogestion. Ce mot qui est un mot un peu un mot valise, parce qu'on y met ce qu'on veut, quoi. Voilà, on y met un peu ce qu'on veut. Et donc, elle va s'en faire l'étendard pendant quelques années. Et progressivement, il prend un peu plus de consistance. Je dis un peu plus parce qu'en réalité, dans les usines, les ouvriers, c'est pas tellement les débats théoriques qui les intéressent. Mais comme il y a quelques grèves productives, la plus célèbre c'est l'IP. À ce moment-là, on voit une analogie entre ces grèves productives et l'autogestion, parce qu'il y a une autre organisation du travail qui essaie de se mettre en place.
Et puis elle va revirer justement un peu paradoxalement après l'IP. Avoir tendance à être un peu moins le relais, justement. Parce que finalement, le mot d'ordre d'autogestion a tendance à relayer les désirs ouvriers. Mmh. La CFDT a tendance à relayer ça. Et puis après l'IP, il y a...
Ouais. Oui, il y a deux phases très nettes assez nettes dans la CFDT. Une phase, entre guillemets, mouvementiste, hein, 68-73, où elle relaie ses aspirations, où elle est en pointe dans tous les mouvements. Et puis à partir de 73, à l'inverse, et notamment dans la Fédération Générale de la Métallurgie, dirigée par Chérec Père, c'est-à-dire Jacques. Et puis Edmond Maire, ensuite, bon, on va avoir des réticences de plus en plus fortes. Et la lutte pour la sidérurgie, elle a cette vertu aussi d'être le moment de bascule, ce qu'on appelle le recentrage de la CFDT. C'est-à-dire, quand il y a recentrage, ça veut dire qu'il y a droitisation. Hein. Voilà. Et donc, 79, c'est le moment où la CFDT devient celle qu'on connaît aujourd'hui.
D'accord. Et est-ce que, quand ça va peut-être être abrupt après ce que vous avez développé, mais est-ce que les années 68 sont la consommation d'un écart entre la base et les syndicats nationaux? Est-ce qu'il y a au fur et à mesure, je dirais, des écarts qui se creusent? Parce que vous dites dès 68, les aspirations de la base ne sont pas les mêmes que...
Alors faut faire attention à cette histoire entre la base et le sommet, parce que la base, elle est multiple. Donc évidemment, on peut toujours trouver du hiatus, de l'écart comme ça. Mais ce qui me frappe, pour ma part, c'est plutôt qu'un écart entre la base et le sommet, c'est le fait qu'un certain nombre d'aspirations, notamment une aspiration à une transformation globale de l'usine taylorienne, cette aspiration-là ne peut pas être intégrée dans les stratégies syndicales et dans le mode syndical de négociation. Travailler, comme le chantent des ouvrières, travailler sans chef et sans patron, ça se négocie pas. ça se négocie pas. Et donc, un certain nombre d'aspirations ne peuvent pas être reprises. Et donc, c'est là où peut-être les aspirations les plus radicales de l'insubordination ouvrière, elles ne peuvent pas être relayées par les syndicats. Et là il y a quelque chose qui... C'est là, plus que ce jeu entre la base et le sommet, qui est un jeu habituel, c'est cette volonté d'une autre organisation de travail qui, faute de relais, à la fin des fins, sombre. Quoi.
D'accord. Donc on va faire une courte pause musicale avant de conclure cette émission. Xavier Vina, donc auteur de l'insubordination ouvrière dans les années 68.
Don't play with me, 'cause I don't have my mouse again, 'cause I have lost my mouse again.
Donc vous êtes toujours sur Radio Grenouille et nous retrouvons notre émission sur mai 68.
Donc on a vu un peu les événements de mai 68, on a parcouru les stratégies syndicales, la CGT, la CFDT. Bon, on aurait pu revenir, et l'ouvrage le fait, et j'invite chaque auditeur à se le procurer. L'ouvrage aussi approfondit la question sur d'autres syndicats, oui. Même des syndicats conservateurs ou réactionnaires qui se créent dans la période. Bon, on va avancer, on va arriver un peu sur ce qu'on a déjà évoqué, hein, les formes d'action pendant et après, donc les années 68. On a vu la séquestration qui a été un mode spectaculaire mais qu'on connaît encore aujourd'hui. Il y a aussi les occupations d'usines. Vous en parlez, vous étendez beaucoup dessus parce que c'est quand même quelque chose d'important sur cette période.
C'est-à-dire que les occupations, c'est un moment où, parce que les ouvriers occupent au lieu de travailler, peuvent discuter. Et donc, une des questions qui m'intéresse dans ce livre, c'est la question de la politique ouvrière. Et donc, les occupations qui favorisent des débats, en 68 évidemment, mais dans la décennie ultérieure, sont cruciales de ce point de vue-là. Ce sont des moments où, précisément, un certain nombre d'ouvriers en grève, quel que soit leur statut, syndiqué, non syndiqué, etc., prennent en charge les affaires et construisent quelque chose qui, pour moi, relève de la politique. C'est-à-dire, on pense à une autre organisation du travail, ouais, dont je parlais tout à l'heure. On pense à qu'est-ce que ça veut dire l'égalité. C'est-à-dire, sur des questions très simples, quand on demande des augmentations de salaire, quel type d'augmentation on va demander ? Des augmentations en pourcentage ou 150 francs pour tous ? Et si on demande des augmentations en pourcentage, ça veut dire que les cadres et les ingénieurs qui font jamais grève, c'est eux qui en profitent le plus. Alors que les OS grévistes en profiteront moins. Si on demande 150 francs pour tous, c'est compréhensible par tous, c'est l'égalité. Le grand mot d'ordre à travail égal, salaire égal, grand mot d'ordre dans l'histoire du mouvement ouvrier, il a une actualité très forte en 68 et dans les années 68.
Oui, c'est...
Et c'est ça... Quand il y a la question de l'égalité de travail, pour moi, c'est de la politique. Même si c'est pas de la politique au sens traditionnel du terme, bon, les affaires de l'État. N'empêche que quand on décide de réfléchir, qu'est-ce que c'est que ce pays, qu'est-ce que c'est que les ouvriers, qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est, etc. Pour moi, c'est de la politique. C'est des formes de politique ouvrière.
Ce qui est intéressant là, justement, moi, ce que vous montrez aussi, c'est que la mise en mouvement, donc le fait de changer, de se mettre en grève, d'occuper, sur, par exemple, vous expliquez aussi que sur la partialisation des tâches, ils découvrent l'usine, les ouvriers ou les ouvrières découvrent l'usine, et du coup, ça les amène à réfléchir à leur propre travail. Et ça, c'est...
Oui. Oui, parce que dans les grandes usines, les ouvriers ne connaissent généralement que l'atelier dans lequel ils travaillent. Et donc, ce n'est qu'une fraction de l'usine. Et là, le moment de la grève, c'est aussi un moment de découverte. Et puis, dans quelques cas de grève productive, justement, on invente fugacement une autre organisation du travail.
Alors, oui, les grèves productives, alors, tout à l'heure, je me suis pas arrêté sur le mot.
Ce sont des grèves dans lesquelles, voilà, les ouvriers, d'une manière ou d'une autre, produisent, participent à une production, non pas habituelle, mais produisent, par exemple, à Lippe, on continue de produire des montres.
Voilà.
À Cerizay, dans les Deux-Sèvres, les ouvriers produisent des chemisiers, bon, etc., etc. Donc, il y a une production, mais avec des cadences, avec une organisation de travail un petit peu différente, ou parfois très différente. Et c'est précisément là, ces grèves productives, c'est des moments d'utopie magnifiques. Parce que là, on se dit que quelque chose... C'est pas simplement un refus, c'est une alternative qu'on invente, qu'on construit.
Parce que justement l'un des reproches ou l'une des sorties de mai 68, certains disent les ouvriers n'ont pas su redémarrer les usines, quoi. On a réussi le blocage complet du pays. Mais à partir de là, quand une fois que le blocage complet, alors c'est vrai que ces grèves productives font rêver finalement, disent ça y est, on peut faire sans les patrons, quoi, c'est ça, hein, on peut faire sans les patrons. Et ce qui est intéressant dans votre ouvrage, alors vous dites c'est pas un phénomène majoritaire,
ah non, très
en plus j'imagine qu'il est applicable qu'à certains secteurs, parce que là, dans l'IP, l'avantage, c'était que c'était des choses maniables, petites, etc. Il ne fallait pas des... Quoi, même s'il fallait des camions, bon, ça pouvait se mettre aussi dans l'arrière des bagnoles, comme ils ont fait. Mais vous dressez une liste, quand même de...
Bah, il y a une vingtaine de grèves, à peu près, comme ça. Donc, c'est assez...
C'est limité pour...
C'est très limité.
En 10 ans, mais...
Mais ça montre, enfin c'est tout un travail que c'est très particulier. L'IP là-dessus innove et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire cette idée qu'à un moment donné, on se passe des patrons, mais on se passe des patrons souvent parce qu'on est le dos au mur. L'IP invente ces grèves productives parce que ils sont menacés d'un plan de licenciement très 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 très, très sévère. Fred Lip a disparu. Bon, le patron a disparu. Alors, en 68, on n'en est pas là. On n'ose pas. On n'est pas dans ce... Dans, ouais. Y a pratiquement personne ne se lève l'idée que maintenant, on va se passer des patrons. Ouais. Les organisations syndicales, par exemple, n'abordent jamais cette question-là. C'est inconcevable, pratiquement. Oui, ça arrive en 73 à l'IP, et c'est pour ça que l'IP a un tel écho dans le pays, aussi.
Alors, à l'opposé de la grève productive, il y a le sabotage,
ouais.
qui est aussi une pratique,
oui.
Qui est une pratique qui existe, qui est limitée, qui est...
Qui existe et qui est limité. C'est-à-dire que, bon, évidemment, un ouvrier qui sabote ne le revendique pas.
Voilà, c'est invisible.
C'est oblique, c'est tu, c'est masqué. Et en fait, c'est mal vu dans le mouvement ouvrier. C'est mal vu dans le mouvement ouvrier. Et donc, c'est quelque chose dont on a des indices. Quelques tracts de la gauche prolétarienne revendiquent des actions de sabotage, et où on voit bien, je renvoie au bouquin dans le détail, mais on voit bien que ce qui est dit, on voit bien que ce sont des ouvriers qui, à un moment ou à un autre, ont aidé l'auteur du tract à écrire, parce que sinon on n'aurait pas toutes ces informations très précises. Bon. Mais ces phénomènes de sabotage, ou de malfaçon, on en a des indices aussi dans les autobiographies ouvrières, mais c'est absolument inquantifiable. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème du rapport au travail. Question compliquée parce que je crois, enfin pour ma part, je suis convaincu que les ouvriers sont dans un revendiquent un ethos du travail, sont fiers de leur travail, et en même temps, il y a la discipline industrielle, et donc il y a ce à la fois cette fierté ouvrière du travail, de la production, etc., et en même temps cette haine, ce dégoût de la réalité de la tâche décomposée, parcellisée, chronométrée, etc.
Saboter, c'est aussi, ça serait aussi finalement dire que le travail qu'on fait sert à rien, parce qu'on le sabote, on le jette, on n'en fait plus rien, quoi. Donc du coup, est-ce que il y a une perte de sens aussi dans le...
Saboter, c'est aussi s'en prendre au patron directement.
Oui.
C'est lui faire perdre de l'argent. C'est-à-dire, voilà, c'est au lieu de par mon travail d'apporter de l'argent directement. Là, je le sanctionne. Là, voilà, je me venge de la plus-value qui m'extort. Voilà. Ah. Et là, donc c'est ça aussi le sabotage, mais. C'est très difficile à... Vous voyez, je suis en train de chercher des études sur le sabotage sur la résistance, j'en trouve pas.
D'accord.
Il n'y a pas de travaux sur le sabotage, même pendant la résistance.
Pendant la résistance, la Seconde Guerre mondiale, d'accord.
Ouais, il n'y en a pas. Ouais. Parce qu'on n'a pas de traces de tout ça.
D'accord.
On sait toujours très, très...
C'est invisible, ça ne se dit pas, et puis c'est... D'accord. Alors, dans votre ouvrage, l'insubordination ouvrière dans les années 68, vous faites aussi une typologie où... Une liste d'acteurs marquants de la période. Il y a les patrons qui sont les ennemis évidents, les symboles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi vous dressez la figure du chef ou du petit chef, suivant comment on l'appelle. Donc, qui est finalement des fois vous dites plus mal aimé que le patron.
Ben oui, c'est paradoxal, mais en même temps, c'est assez compréhensible. C'est lui qui incarne l'autorité dans la proximité la plus immédiate. C'est lui qui va décider que tel ouvrier aura un poste plus facile que tel autre, etc. Et donc, c'est lui qui cristallise l'hostilité, d'autant plus qu'un certain nombre de ses petits chefs n'ont pas une formation technique, mais sont simplement d'anciens militaires qu'on a reconvertis.
Bon. Oui,
plus dans certains endroits, quand même, il faut quand même en parler aussi, ce qu'on n'appelle pas encore du harcèlement sexuel sur les ouvrières, bon. Et dont on a de multiples indices. Donc tout ça fait que le petit chef en blouse, ben voilà, c'est la figure détestée. Alors j'ai cité dans le bouquin un extrait comme ça, c'est sur le renard, c'est le faillot, le jaune, bon, mais en même temps c'est le petit chef.
C'est un tract ou c'est ça?
Oui, c'est un extrait de La Cause du Peuple qui a pris un tract. Et on accuse les chefs d'être des traîtres, des jaunes, des cocus, n'avoir aucune virilité, etc., etc.
Bon. Oui. On pourra revenir aussi sur les questions de virilité. Et justement, dans les figures, ce que j'ai sur la virilité, mais dans les figures que vous citez autour de l'usine ou dans ces grèves ou dans ces mouvements ouvriers, il y a les étudiants gauchistes, qualifiés parfois d'homosexuels par les syndicalistes, non, à un moment donné.
Oui, enfin, dans quelques endroits.
Oui, oui, non, c'est pas. Et puis par les syndicalistes, c'est pareil, faudrait être plus précis que ça, quoi. Vous l'êtes d'ailleurs dans votre ouvrage, beaucoup plus précis que les affirmations que je fais là. Mais c'est vrai que les étudiants gauchistes qui tournent autour des usines sont pas forcément toujours bien perçus.
Par la CGT, ils sont absolument détestés. Très clairement, c'est des ennemis de classe d'abord, parce que pour la CGT, les étudiants, c'est des fils de bourgeois. Et puis ensuite, parce qu'ils critiquent la CGT. Donc là, l'origine de classe, plus les positions politiques, font que tout ça aboutit à une très vive hostilité. Il y a des bagarres récurrentes, il y a des jeunes étudiants qui se font casser la figure. Enfin bon, tout ça est assez connu.
Ouais.
Et en même temps, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que dans certains endroits, évidemment, ces militants d'extrême gauche, ces gauchistes, comme on dit, trotskistes, maoïstes, etc., etc., ils trouvent des contacts, ils ont des échos, ils discutent. Et j'allais dire, presque quelles que soient les affiliations organisationnelles, si telle organisation trotskiste débarque dans tel endroit, eh ben, ils vont trouver des militants qui vont ensuite se dire trotskistes. Si ça avait été des maoïstes, ils auraient été des maoïstes,
peu importe.
C'était ceux qui permettaient d'échapper aux carcans cégétaux PC, quoi. Voilà.
D'accord.
Et c'est ceux qui étaient les catalyseurs de l'insubordination, ceux qui la poussaient, ceux qui la favorisaient.
D'accord. Et quoi, justement, vous parlez de centralité ouvrière, parce que ça, c'est peut-être important de revenir un peu sur la place de l'ouvrier dans cette période pour ces mouvances révolutionnaires.
Mais pour cette mouvance révolutionnaire et pour tout le monde. C'est-à-dire, si les étudiants en 68 vont dans les usines, vont aux portes des usines, pourquoi? C'est parce qu'ils considèrent que la classe ouvrière, c'est la classe qui va décider de l'avenir du pays. C'est eux qui feront la révolution ou pas. Si les ouvriers font pas la révolution, personne d'autre les fera. Ne la fera, pardon. On considère que les ouvriers, c'est le groupe social décisif. Celui qu'il faut rencontrer et celui qui doit décider, en quelque sorte. Donc, il y a une centralité ouvrière pour les gauchistes, mais il y a une centralité ouvrière pour tout le monde, y compris les cathos. On a oublié, mais c'est le moment où il y a une masse de prêtres ouvriers, par exemple. Les catholiques investissent, alors bon, on ne va pas en parler ici, mais enfin, les catholiques investissent le monde ouvrier aussi.
Les établis.
Les établis, évidemment.
Donc les états, quoi,
c'est-à-dire ces militants maoïstes essentiellement qui abandonnent étudiants ou lycéens qui abandonnent leurs études pour s'embaucher, se faire ouvrier, pour participer à la révolutionnarisation de la classe ouvrière.
Et on peut inviter les lecteurs à lire, une fois qu'ils auront lu votre ouvrage, Xavier Vina, à lire L'Établi de Robert Linhart.
Oui, un très 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 grand livre, un immense ouvrage de Robert Linhart qui porte témoignage de son expérience d'OS à Citroën, dans l'usine Citroën de Porte de Choisy, après 68, en 68-69. Et c'est un ouvrage magnifique, y compris sur ce qu'est la réalité de l'usine, justement, dans une des entreprises les plus autoritaires, justement. Le chef Citroën, C'est vraiment une des incarnations de ces petits chefaillons détestés.
D'accord. Bah, voilà. Merci de toutes ces explications.
Merci à vous.
On n'a pas traité de la moitié du quart de ce dont on aurait voulu parler, mais en tout cas, j'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de se procurer L'insubordination ouvrière dans les années 68, un ouvrage de Xavier Vina, qui est paru aux éditions Les Presses universitaires de Rennes.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Je vous rappelle que cette émission a été réalisée par le groupe Offensive Libertaire et Sociale de Marseille. Pour nous contacter, deux solutions. Soit nous envoyer un mail à chapacan@riseup.net, chapacan@riseup.net, ou alors par courrier à OLS, CO 1000 Babord, 61 rue Consola, 13001 Marseille. Je me répète, mais le groupe Offensive Libertaire et Sociale édite une revue trimestrielle qui s'intitule Offensive. Le dernier numéro qui vient de paraître a été réalisé en partenariat avec le mensuel Courant Alternatif. Le thème de son dossier, qui n'échappe pas à l'actualité, est consacré à mai 68. J'encourage déjà les auditeurs à se le procurer. Alors, vous pouvez trouver la revue soit en kiosque, ou bien sur Marseille dans les librairies suivantes. L'Odeur du Temps, Bouquine, Les Portulans, Les Mots pour le Dire, la librairie Maupetit, ou bien au local 1000 Babord.